C'est vrai que dans les traditions spirituelles, souvent, en particulier celles qui se basent sur l'idée de l'amour inconditionnel, on oppose toujours alors le mental ou la raison à l'amour. Est-ce que vous diriez cela? C'est-à-dire que c'est ce qui nous empêche d'entrer vraiment de plein pied dans l'amour. Quand je dis l'amour, ça veut dire l'amour inconditionnel, évidemment, l'amour dans le sens spirituel du terme, qui passe aussi par l'amour des autres, évidemment.
Donc, c'est vrai que le mental, c'est un aspect très spécifique, ça, c'est pas le monde de la pensée, ça n'est pas l'intelligence, il faut le rappeler, donc il ne s'agit pas de perdre le discernement, au contraire, bien au contraire, mais ce fonctionnement très particulier qui refuse que les choses soient comme elles sont, ça oui, c'est un obstacle majeur. En fait, c'est ce qui nous ferme le cœur. Ben, si je prends un exemple très simple, vous êtes dans une interaction avec un de vos proches et ce proche commence à dire des choses qui vous heurtent, mais vous sentez très bien comment il peut me dire ça, mais pas du tout. Vous sentez une fermeture qui se produit en vous, ben, que vous avez envie de rejeter ce qu'il dit en disant mais il ne peut pas dire ça ou elle ne peut pas dire ça, ce n'est pas possible, etc. Et justement de mettre un bouclier pour empêcher ça de rentrer. Donc c'est précisément là où on peut faire l'expérience de dire ben non, justement, je vais laisser rentrer. Oui, ça me dérange. Oui, ce que dit l'autre, ça me perturbe, ça me fait mal. Laissons faire et voyons voir. Et vraiment, c'est une expérience que j'ai faite moi-même à nombreuses reprises, de voir que certes, dans un premier temps, c'est très inconfortable, mais que le fait d'accepter ça, de traverser ça, au bout d'un moment, mais je commence à percevoir autre chose. Et il monte d'autres réponses. Au lieu d'argumenter avec l'autre et de chercher, pendant qu'il parle, je suis déjà en train de préparer ma réponse, d'aller dans un espace où je ne sais plus du tout, dans la seconde, ce que je vais dire dans la seconde d'après. Et je vais moi-même le découvrir. Il y a une émergence qui va venir de l'intérieur. Justement, cette écoute de la profondeur qui va amener une réponse d'un autre ordre, en fait.
C'est là où l'esprit nous permet de dépasser le fonctionnement, effectivement, du mental et de l'ego.
Absolument,
et qu'on apprend progressivement à lâcher l'ego, mais dans des situations concrètes. Parce que quand on dit qu'il faut arriver à lâcher l'ego, ça se fait que pas par pas, situation par situation, émotion par émotion.
Oui, ça, c'est fondamental, ce que vous dites. C'est absolument fondamental parce que souvent, beaucoup de gens sur un chemin se disent « alors l'ego, c'est la bête à abattre ». Et donc, bon, alors il faut pas la ramener, il faut pas se mettre en avant. C'est pas ça. Comme vous le dites, c'est que des petites situations ou des grandes situations du quotidien. Et à chaque fois, il y a l'ego qui veut que ça se passe d'une certaine manière, qui veut tirer les choses dans un certain sens. Et c'est là qu'effectivement, nous avons une pratique très concrète. Bon, ben, est-ce que je vais laisser l'ego prendre les choses en main avec le résultat que je connais le plus souvent, ou justement je laisse cette intelligence du cœur œuvrer à la place?
Oui, alors, et j'aime beaucoup le mot que vous employez, qui vous dites « j'en ai fait l'expérience ». Et c'est vrai que d'une certaine façon, il faut que chacun en fasse l'expérience. C'est très difficile de le partager, surtout qu'on vit dans une époque où on passe plutôt pour un naïf quand on se comporte comme ça.
Oui, parce qu'on est très marqué par l'efficacité dans notre société et la performance. Donc, ce n'est pas considéré comme performant. Et justement, l'amour est très patient. Swami Prajnapad disait de lui-même, s'il avait deux « pouvoirs », entre guillemets, c'était un amour et une patience infinie. Et voilà, j'ai vu ça aussi à l'œuvre beaucoup chez Arnaud Desjardins, face à des élèves qui étaient en révolte, qui étaient très négatifs à son égard pendant des périodes. Et il montrait une grande patience. Il disait, mais ça va faire son chemin. D'autres disaient, mais enfin, il faut réagir, etc. etc. Et lui, il témoignait une grande confiance dans l'être humain en disant, mais ça va faire son chemin, en fait.
Alors, quand vous dites qu'il faut essayer d'effacer l'ego d'une certaine façon, de le laisser aller, mais c'est pas tellement, vous parlez d'effacement, mais enfin, c'est plus de le laisser aller. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus avoir de désir en propre?
Non. Alors justement, l'effacement de l'ego n'est pas une démarche volontariste d'élimination de l'ego. C'est plutôt de se rendre compte quand il fait obstacle, par sa crispation, parce qu'il veut tirer les choses absolument du côté où il le veut ou éviter que ça se passe quand il ne le veut pas. Donc oui, l'ego, et c'est normal, nous avons tous des désirs, des aspirations, et nous n'avons pas que le désir de l'amour inconditionnel, de l'aspiration de la paix. Nous avons aussi toutes sortes de désirs que nous cherchons à satisfaire. Et donc là aussi, il y a tout un travail intérieur à faire, de reconnaître ces désirs, de reconnaître ceux qui nous tiennent vraiment à cœur, pour chercher à les réaliser. Parce que là aussi, dans cette approche expérimentale, on ne va pas dire « Ah ben, il ne faut plus avoir de désir parce que le désir fait souffrir, parce que sinon on va réprimer. » Et non, l'une des aspects fondamentaux de cet enseignement, c'est aucun déni de quoi que ce soit. Donc, s'il y a un désir, c'est important de le reconnaître et de chercher à le vivre pour faire l'expérience et voir, ben, finalement, quand je cherche à satisfaire le désir, est-ce que je vais être vraiment satisfait et durablement satisfait ? C'est-à-dire de ne pas plaquer une connaissance théorique, théologique sur le désir, ne satisfaire les désirs, ça n'a pas de fin. Non, je dois moi-même en faire l'expérience et vraiment vérifier ce qu'il en est pour moi et satisfaire un certain nombre de désirs, parce que ce n'est pas pareil d'avoir cherché à satisfaire ses désirs et d'en avoir satisfait certains, c'est pas pareil que de mettre une croix dessus et de dire « bon, bah, finalement, c'est pas le plus important » et je le balaye, en fait.
Et puis, je rajouterais peut-être quelque chose. Il faut distinguer les désirs qui sont effectivement des désirs liés à l'ego, tel que vous en parlez, puis le désir de l'esprit, qui est le désir aussi de progresser, le désir de l'éveil, hein, dans le bouddhisme, qui a une certaine prudence vis-à-vis du désir, on sait pourquoi, mais qui en même temps dit qu'il y a un désir fondamental qu'il ne faut surtout pas chercher à éliminer, c'est le désir d'être meilleur, c'est le désir d'atteindre l'éveil, c'est le désir de progresser sans cesse.
Bien sûr, oui. Mais donc là aussi, ce désir, il est souvent recouvert. Et on a besoin d'explorer l'intérieur et de le questionner. C'est pour ça cette question, qu'est-ce que je cherche, à quoi est-ce que j'aspire, est si importante pour vraiment le sentir, ce désir, que ça ne soit pas qu'une idée. Ce n'est pas une idée, c'est une aspiration. Donc il y a quelque chose qui parle dans notre corps, en fait, quand nous ressentons cette aspiration.
Donc vous, dans votre travail thérapeutique, puisque vous êtes thérapeute, une des choses que vous faites, c'est d'aider, j'imagine, vos patients à détecter ce désir profond, le plus profond qui les anime.
Voilà. Et de mettre les désirs en perspective, de voir finalement, il y a une forme de hiérarchie des désirs, avec un désir qui peut traverser toute la vie entière, qui est ce désir, cette aspiration profonde, mais aussi d'autres désirs, certains très immédiats, d'autres à plus long terme. Et que voilà, il n'y a pas de raison de maltraiter des désirs plus petits ou à plus court terme au nom de celui-là, en fait.
Est-ce que vous seriez d'accord avec notre ami Spinoza lorsqu'il dit que... Non, mais c'est une joke.
Spinoza, hein. Again.
Ça va être dur de ne pas être d'accord.
Non, mais si, on peut ne pas être d'accord. Mais lorsqu'il dit qu'on ne peut pas se transformer uniquement par la raison, c'est-à-dire qu'il dit au fond, la raison n'est pas un moteur suffisant pour nous transformer, ça nous aide à discerner, mais c'est le désir qui va être le moteur de la transformation, et on ne peut quitter un désir mauvais que si on fait susciter un autre désir qui est meilleur pour nous.
Ah ben alors là, je suis spinoziste sans le savoir, je suis totalement convaincu de ça, absolument, que justement le raisonnement ne viendra pas au bout des émotions, ne viendra pas à bout des désirs, et il faut justement contacter un intérêt plus grand. Alors là, je suis totalement convaincu.
Bon, alors si vous êtes d'accord, Lélie, on terminera cette émission sur cette parole, et je
absolument.
Vous laisse encore parler de vous
oui,
citer quelques ouvrages.
D'autant plus que je voulais juste citer ça va totalement dans le sens de ce que vous dites, un ouvrage de Viktor Frankl, Ce qui ne figure pas dans mes livres, avec une traduction et une très belle postface de Georges Elias Sarfati aux éditions Interéditions. Et on sait à quel point Viktor Frankl a été, donc lui qui était le père de la logothérapie, il va tout à fait dans le sens que vous indiquez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas refuser la souffrance, mais la prendre et surtout lui donner un sens. Et ça rejoint en fait tout ce qu'on vient de dire là. Et là, c'est vrai qu'il revisite en fait des étapes de sa vie, en particulier il revient sur l'expérience des camps, et Dieu sait qu'il a su traverser, laisser venir à lui cette souffrance, la traverser en lui donnant du sens. Et c'est très intime, c'est très beau, parce que c'est un ouvrage beaucoup plus personnel, je dirais, que d'autres de ses ouvrages qui seraient peut-être un peu plus théoriques. En tout cas, voilà, c'est un très beau complément à votre ouvrage, Souffrir ou aimer, transformer l'émotion. Il aurait presque pu dire, souffrir et aimer, ce sont des démarches qui ne sont pas d'une certaine façon séparables. Et voilà, donc j'en recommande vraiment la lecture aux auditeurs qui, en tout cas, avaient aimé l'année dernière l'émission que nous avons faite sur Viktor Frankl.
Et je signale également un livre que je trouve excellent sur la question du mental, de tout le fonctionnement du mental qui est là pour nous aider à survivre, mais qui nous empêche de vivre. Et sur cette question des émotions, c'est un thérapeute que je connais, que j'apprécie, qui s'appelle André Charbonnier et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Entre vous et le bonheur, il n'y a que des peurs ». Voilà, aux éditions Lumière, et c'est un ouvrage qu'on trouve plus facilement chez Amazon que dans les librairies. Puis je rappelle votre ouvrage « Souffrir ou aimer », docteur Christophe Massin, « Transformer l'émotion », avec une très belle préface d'Alexandre Jolien aux éditions Odile Jacob.